simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Comment une révolution advient-elle? Des milliers de pages ont été noircies pour tenter de comprendre les mécanismes qui produisent les circonstances aboutissement au changement du cours de l'histoire. Elles peinent cependant à saisir ce qui est le cœur de l'événement. Car la révolution, c'est d'abord une aventure humaine. Il y a un siècle, les manifestations spontanées des ouvrières de Petrograd marquaient les prémices de la révolution russe. En quelques jours, le prolétariat de la capitale, qui, en pleine guerre mondiale, s'était porté à l'assaut de l'autocratie tsariste, jetait à bas l'un des régimes les plus tyranniques d'Europe. Durant 8 mois, malgré le développement à un rythme inégal, dans les villes, les campagnes, et sur les milliers de kilomètres de front où combattaient les soldats, malgré les périodes de stabilisation, de reflux, ce mouvement ne devait pas s'arrêter. Le journaliste, poète et écrivain américain John Reed est à Petrograd quand éclate la révolution d'octobre 1917. Le récit qu'il livre de ces journées historiques, véritable épopée des temps modernes, plonge dans la déferlante révolutionnaire soviétique qui va bouleverser le XXe siècle. La révolution en direct donc, son ébullition, sa fébrilité, la détermination des bolcheviks, les idéaux, les erreurs de jugement aussi, le tumulte, la parole libérée en des joutes oratoires sans fin. La violence larvée, puis finalement bien présente, même si elle est plutôt laissée à l'arrière-plan dans le récit. La force particulière de John Reed est de nous entraîner au cœur des événements. Le plaisir, la complicité entrent en jeu, résonnant avec l'humour et l'ironie de John Reed, rejoignant sa compréhension des événements. L'auteur fait œuvre de poète, en restant à l'écoute des aspirations humaines fondamentales, comme ses camarades russes sur l'aide pour les revendications des ouvriers et des paysans russes, la paix, la terre, le contrôle ouvrier, la liberté. Né à Portland en 1887, John Reed, rejeton de la bourgeoisie américaine, découvre les idées socialistes au cours de ses études à Harvard. Diplômé en 1910, il se tourne alors vers le journalisme et s'engage en faveur des mouvements ouvriers. Après avoir suivi Pancho Villa durant la révolution mexicaine, il se rend plusieurs fois en Europe et découvre la Russie en 1915. Farouchement opposé à la Première Guerre mondiale et au régime tsariste, il arrive à Petrograd avec son épouse Louise Bryant en septembre 1917 et assiste avec enthousiasme à la révolution d'octobre. Après avoir contribué à la naissance du Communist Labour Party aux États-Unis, il retourne en Russie fin 1919 pour participer aux activités de l'Internationale communiste. Victime du typhus en 1920 à l'âge de 32 ans, il est enterré sur la place Rouge de Moscou, dans la nécropole du mur du Kremlin, aux côtés des révolutionnaires de 1917 dont il avait décrit le combat. En 2017, Michel Sidorov réalisait une adaptation radiophonique de son ouvrage le plus célèbre, « 10 jours qui ébranlèrent le monde ». C'est ce feuilleton que nous proposons aux auditeurs de l'Égrégore, une série en 10 épisodes. Pour se rappeler, en reprenant les mots de Paul Matic, que la révolution est une belle aventure. Épisode 3. Dans leur petit logement de Greenwich Village, John Reed et Louise rassemblent leurs documents, tandis que Kerensky, Premier ministre, prépare une nouvelle répression en s'alliant aux généraux cosaques. La rue s'emplit des clameurs des soldats et ouvriers révolutionnaires.
What about the American presence in the European war? Our chiefs have had a meeting with General Pétain, and now there is no doubt that the last Russian mutineers in France are in Algeria, working in French cultivations far from the front.
Mais il faut essayer. Les troupes ne sont pas encore parties.
Essayons, John, essayons. Mais quand la machine militaire est lancée, il est difficile de l'arrêter.
La politique d'intervention est permise par la propagande anti-bolchévique des grands journaux. Si nous réussissons à défendre nos positions devant la sous-commission du Sénat, à faire admettre que les patrons de presse obligent les journalistes à déverser des calomnies contre la Révolution, alors le gouvernement sera peut-être obligé de renoncer à intervenir en Russie. Tu as entendu ?
Qui sonne à part ailleurs ? Je vais voir.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Convocation au tribunal pour monsieur John Silas Reed.
C'était un policier, encore un. Une convocation pour toi au tribunal, dans le cadre du procès de notre revue Masses. Tu es accusé de conspiration visant à semer le désordre dans l'armée. Chérie, ça va jamais finir.
Fais-moi voir. C'est pour bientôt. Il faut que je termine les deux dernières parties de mon histoire de la révolution bolchevique pour le Liberator. Max Eastman s'impatiente et si je suis emprisonné, ce sera plus difficile. J'ai relu hier soir ton manuscrit de Six Red Mounds in Russia et je n'ai rien vu sur les mouvements nationalistes, les Géorgiens, les Ukrainiens ou les Finlandais pendant les premiers mois de la Révolution.
Oui, ça n'entrait pas vraiment dans le plan de mon livre. Mais j'ai développé quelque chose sur les Cosaques. Et j'ai toutes les notes si tu veux.
Moi aussi, j'ai quelques trucs dans mes carnets à propos des généraux qui étaient souvent des cosaques. Ça va les compléter, merci. J'ai trouvé formidables tes portraits des figures de la Révolution et de la Contre-Révolution. Surtout les femmes comme Alexandra Kollontai. J'ai hâte de la revoir.
Moi aussi. Mais pour le moment, la bataille est ici, à New York. J'ai rendez-vous avec mon éditeur, George Doran. Je prends le manuscrit. À plus tard.
D'un côté, le gouvernement provisoire et son pseudo-parlement, le Conseil de la République. Et face à ce régime impuissant, deux entités irréconciliables, dont l'une devait anéantir l'autre. la masse des ouvriers, des soldats, des paysans, et le regroupement des grands propriétaires, des banquiers et des officiers. Depuis la chute du tsar, la référence à la monarchie était interdite. Les privilégiés, tous nostalgiques du tsarisme, s'abritaient derrière le parti cadet. Le Conseil de la République ayant accepté en son sein des représentants des grands propriétaires et des hommes d'affaires, les bolcheviks en étaient sortis, assez bruyamment. Les bellicistes et les anciens internationalistes, comme Martov, devenus très conciliants avec la guerre, étaient face à face, pour un théâtre d'ombre. Je me souviens d'une séance au Palais Marie. J'y étais avec Bill Chatov.
J'ai en main le dernier numéro des Izvestia, l'organe officiel du comité central des soviets, le TSIK. Eh bien, même ces gens-là deviennent raisonnables. Ils annoncent la fin de l'activité des soviets. Disez-le. Ils envisagent de dissoudre leurs propres organes. Et nous avons entendu ici M. Kerensky annoncer, comme un des articles de son programme, la liquidation des organisations irresponsables. Autrement dit, des soviets.
Les socialistes révolutionnaires de gauche ne laisseront pas M. Kerensky appliquer un tel programme. Vous voulez la guerre pour continuer à exploiter le peuple. Nous voulons la paix, la terre aux paysans, le contrôle de l'industrie par les ouvriers.
C'est le programme des bolcheviks. Ils n'ont pas besoin de siéger au Conseil de la République. Vous êtes là pour défendre leur politique.
De toute façon, nous ne croyons pas un mot des intentions de M. Kerensky. Il n'aura jamais la force de soumettre les bolcheviks et leurs alliés. Le gouvernement n'a pas le droit de proclamer la République en Russie. Nous savons ce dont la Russie a besoin. C'est d'un homme fort, qui saura prendre les mesures les plus sévères contre les comités de soldats et de matelots. J'accuse ici les soviets de faire le jeu de l'Allemagne. C'est de la haute trahison. Vous, le groupe de Martov et les socialistes révolutionnaires, vous êtes des défaitistes professionnels.
Je demande la parole.
La parole est à Yuli Osipovitch Tsederbaum. Vous aurez deviné, Julius Martov.
Toujours cet antisémitisme. Ils ne peuvent pas prononcer un nom juif sans exprimer du mépris ou du dégoût. Combien parmi ces cadets ont participé à la formation des Sangs Noirs ?
Beaucoup sûrement. Ce groupe est bourré de monarchistes.
Vous nous appelez défaitistes ?
Oui, je vais bien parfaitement.
Mais les vrais défaitistes, ce sont ceux qui attendent pour conclure la paix un moment favorable, qui veulent remettre la paix à plus tard, quand il ne restera rien de l'armée russe, quand la Russie sera devenue un objet de marchandage entre les différents groupes impérialistes. Vous essayez d'imposer au peuple russe une politique dictée par les intérêts de la bourgeoisie. La question de la paix est urgente. Vous apprendrez que ce n'est pas en vain qu'ont travaillé les Zimmerwaldiens que vous appelez agents de l'Allemagne et qui ont préparé dans tous les pays le réveil de la conscience des masses démocratiques.
Les bolcheviks ont quitté le Conseil, mais ils y ont laissé leurs représentants. Oui, des agents de l'Allemagne. Comment peut-on laisser de pareils gens s'exprimer ? Voilà où mène la liberté. Le gouvernement provisoire n'a aucun droit à proclamer la République.
Vous êtes bien contents, vous, les monarchistes masqués.
Démasqués !
Vous êtes bien contents de pouvoir exister dans ce Conseil de la République, qui n'a heureusement aucun pouvoir.
Messieurs, vous créez trop d'incidents.
Mais à qui vous adressez-vous ? Allons ! Nous le savons bien.
La séance est levée.
Monsieur, nous avons tous entendu le ton méprisant et l'allusion antisémite à l'adresse du camarade Martov. Vous nous en rendrez raison.
Vous savez bien que le tsar a interdit les duels. Dommage d'ailleurs, j'ai d'excellents pistolets.
Pour moi, le point pourrait suffire, monsieur l'antisémite.
On n'est pas sur un ring de vos quartiers populaires, monsieur l'américain.
Bill, laisse tomber. On pourrait bien dénoncer Kerensky, te faire expulser. Nous avons besoin de toi.
Je sais bien pourquoi ils remettent ça avec leur antisémitisme. Ils ne digèrent pas le projet de traité de paix, le nakaz de Skobeliev, qui réclame la reconnaissance pleine et entière des droits pour les juifs en Roumanie, une fois la paix conclue.
De toute façon, ce nakaz ne veut rien dire. Pas d'annexion, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. Et une instance internationale.
Une instance internationale. Ça ne sera qu'une caverne de brigands. Martov était émouvant tout à l'heure. Une figure du passé, voilà. Il avait été bien utile à Zimmerwald en Suisse, en 1915, avec Trotsky, Lénine, le français Pierre Brison. À l'époque, il fallait rassembler contre la guerre, contre les dirigeants de la Deuxième Internationale qui avaient fait voter partout les crédits de guerre et soutenu les gouvernements en guerre dans chaque pays, comme chez nous, à présent, avec le président Wilson et les socialistes réformistes. Aujourd'hui, en Russie, Martov est devenu un ancien combattant de la paix. Parce qu'il ne réclame pas la paix tout de suite, sans condition.
La contradiction chez lui, elle vient de son refus de s'en remettre au prolétariat. Il veut à tout prix maintenir le lien avec la bourgeoisie russe au nom d'une théorie des étapes. D'abord la révolution bourgeoise et le développement de la société industrielle, puis la révolution prolétarienne, sorte de suite naturelle. Mais la vie est plus complexe que les belles théories. Le prolétariat d'usine s'est développé sans révolution bourgeoise sous le tsarisme. Souviens-toi, Dostoïevski en parle déjà à propos des usines Poutilov dans Les Démons.
Oui, c'est exactement ce que développe Lénine dans ses thèses d'avril. Ceux qui défendent la révolution par étapes ne font que soutenir la bourgeoisie et la guerre. N'empêche, en face des cadets, les SR de gauche et les mencheviks internationalistes défendent de plus en plus les revendications appuyées par les bolcheviks. La terre, la paix, le contrôle ouvrier.
Ils subissent à leur manière la pression de ceux qui montent dans le pays. C'est une vague de fond. Mais leurs affrontements avec les cadets ne servent strictement à rien. Le Conseil de la République n'a aucun pouvoir. C'est une soupape que le gouvernement provisoire a trouvée pour aider le Tsik à ne pas convoquer le Congrès des Soviets. Sortons de ce capharnaüm, allons à l'Institut Smolny retrouver Louise et les camarades.
Quel contraste avec les insectes du palais Marie. Ici, la vie surgit. Là-bas, c'est comme dans le vivarium que j'ai vu à Paris, au jardin des plantes, des punaises qui se montrent les unes sur les autres. Regarde, la plaque indiquant que Pouchkine a vécu et est mort dans cette maison. Je suis à Petrograd depuis plus longtemps que toi, et j'ai pu la visiter. La dame qui tient ce petit musée pleure à chaque fois qu'elle raconte le duel fatal de Pouchkine avec Dantès. Et moi aussi, j'ai pleuré. Je suis pas d'origine russe pour rien.
Dantès. Ce Français très louche qui était peut-être au service du tsar et avait provoqué Pouchkine en insultant sa femme. J'y ai repensé pendant l'affrontement entre le cadet et le menchevique internationaliste tout à l'heure. Toi aussi, probablement. Mmh. Le régime de Nicolas Ier se débarrassait ainsi d'un poète qui avait sympathisé avec les décembristes. Tout cela, c'est le passé. À présent, le régime s'habille des oripeaux de la démocratie et nous avons affaire à des mesures policières plus perfectionnées. Mais il nous reste la poésie de Pouchkine. Et si nous combattons pour la révolution, c'est bien pour que le peuple ait accès à la poésie, enfin. J'ai découvert ce poème de Pouchkine, le prisonnier. Je gis enfermé dans la pénombre humide.
Il est très connu aussi. Узник. Сижу за решеткой в темнице сырой. Скормленный в неволе орел молодой, мой грустный товарищ, махая крылом. Кровавую пищу клюет под окном.
клюет и бросает, и смотрит в окно, как будто со мною задумал одно. Зовет меня взглядом и криком своим, и вымолвит хочет: давай улетим. Мы вольные птицы, пора, брат, пора, туда, где за тучей белеет гора, туда, где синеют морские края, туда, где гуляем лишь ветер, да я.
Des endécasyllabes, le vers saphique. Les Russes utilisent la prosodie grecque. Je gis enfermé dans la pénombre humide. Sous ma fenêtre, un aiglon trophée sordide. Triste compagnon bat de son aile en vain, béquette sa viande et la jette sans fin. Du bec il la lance en fixant l'ouverture, et de mes pensées devine la nature. Chacun de ses regards m'appelle et son cri semble dire: volons, volons loin d'ici, volons libres oiseaux, mon frère il est temps. Là où la mer bleuit, plissée des autans, où la montagne sous la nuée flamboie, où ne viennent et vont que les vents, et moi. Attends, je vais acheter le journal de Gorki. Voilà un qui est enfermé dans des contradictions inextricables. Il veut tout, sauf l'insurrection. Dobry večer, tavarish. U vas jest novaya zhizna?
Da, 2 rubla.
Ну вот.
Спасибо, товарищ американец.
Toujours notre accent. Pas moyen de passer pour des Russes.
Mais toi, aux États-Unis, on te croit russe depuis longtemps. Tiens, lis.
Во время февральских дней казаки не стреляли в народ. Во время Корнилова они не присоединились к изменнику.
Pour une fois, Gorki écrit une chose sérieuse. Dans les premiers temps de la révolution, en février, les Cosaques refusèrent de tirer sur le peuple. Quand Kornilov marcha sur Petrograd, ils refusèrent de le suivre. D'un rôle passif et loyal envers la Révolution, les Cosaques sont passés à une politique active et offensive contre la Révolution. De l'arrière-plan, ils se sont soudain avancés sur le devant de la scène.
Quelle meilleure illustration de ce que nos amis bolcheviques expliquent. La seule méthode pour la bourgeoisie, c'est celle de Kornilov, la mitraille. Comme lorsqu'elle a écrasé la commune de Paris. Et plus nous attendons, plus le danger de contre-révolution s'installe.
Kaliédine, ataman des Cosaques du Don, avait été destitué par le gouvernement provisoire en raison de sa complicité dans l'affaire Kornilov. Dans la première moitié d'octobre, une délégation cosaque vint trouver Kerensky en défense de Kaliédine. Il faut imaginer l'apparat des officiers en délégation. Les gardes déployés avec toutes leurs armes, les sabres, les bottes, les éperons, même s'ils sortaient de luxueuses automobiles. Une véritable provocation.
Messieurs, prévenu de l'arrivée de votre délégation, j'ai tenu à vous témoigner toute mon attention à votre situation sur le Don et au-delà du Don, et à saluer par avance votre ataman, le général Kaledin.
Monsieur le Premier ministre, nous n'irons pas par quatre chemins. Nous venons vous trouver pour vous demander de faire cesser les accusations, les calomnies portées contre notre ataman. Au moment où va s'ouvrir le procès du général Kornilov, lui-même injustement chargé de toutes les fautes commises contre la Sainte Russie, il s'agit de l'honneur de tous les Cosaques.
La justice de la Nouvelle-Russie saura faire preuve de discernement, soyez-en sûrs.
Nous n'avons aucune raison d'en être sûrs, car nous voyons votre gouvernement céder en toute occasion aux Soviets, ces organes monstrueux de la subversion.
Je vous confirme que votre ataman ne sera pas inquiété. Quant aux Soviets, aux yeux de leur chef, je suis un despote, un tyran. Sachez que le gouvernement provisoire ne s'appuie pas sur les Soviets, mais qu'en réalité, ils considèrent comme très regrettable le seul fait de leur existence.
Nous prenons acte, monsieur le Premier ministre, et nous nous retirons, afin de rendre compte le plus rapidement possible de notre entrevue et de vos déclarations.
Le 16 octobre, la veille de mon entrevue avec Trotsky, j'avais interviewé Kerensky en compagnie de deux autres journalistes, un Anglais et un Français. Nous fûmes les derniers correspondants reçus par lui. À notre grand étonnement, il nous déclara
« Le peuple russe souffre d'épuisement économique et aussi de désillusion en ce qui concerne les alliés. Le monde pense que la révolution touche à sa fin. Ne vous y trompez pas. La révolution russe ne fait que commencer. The Russian people are suffering from economic fatigue and from disillusionment with their lives. The world thinks that the Russian revolution is at an end. Do not be mistaken. The Russian revolution is just beginning. »
Parole plus prophétique sans doute qu'il ne le savait.
Allô ?
Salut John, c'est Max.
Oh Max, tu tombes bien, je termine la deuxième partie de mon travail historique pour le Liberator.
Tu n'as pas besoin de me rassurer, John. J'ai une très bonne nouvelle. Les relais de Harvard ont bien fonctionné. Le juge du district de Manhattan a accepté de te rendre tes documents. Tu peux aller chercher ta malle au commissariat du New Jersey Port Authority.
Bravo pour ton entremise, Max. Je remercierai les anciens de Harvard dès que possible.
Tu vois, John, conserver des relations dans la bourgeoisie est parfois utile. Encore faut-il savoir jusqu'où on peut aller, tu me diras.
On a mis chaud d'eau, ou non? Je disais, on a mis chaud d'eau, ou non?
Membres du comité central du parti bolchevique, Alexandra Kolontai et Volodarsky. Ils sont tous tellement pressés. Si nous les ratons, nous ne savons pas quand nous les retrouverons.
Après l'insurrection, qui sait?
Et dire que cet institut avait été construit pour organiser l'éducation des jeunes filles nobles. Regardez, le bureau du comité militaire révolutionnaire. Il porte le numéro 17.
Et le gars qui vient d'entrer, c'est son responsable, Lazarinov. Il n'a pas encore 18 ans.
Troisième épisode, une lame de fond.
avec Pierre-Marie Baudouin, John Reed, Flora Brunier, Louise Bryant, Nicolas Struve, Bill Chatoff, Olivier Cruveillé, Martoff, Jean-Benoît Souille, Kerensky, Bertrand Suarez-Pazos, Max Eastman, et Michel Melki, Mathieu Roche-Vargé, Gérard Cherki, Dominique Parent, Louis-Marie Audubert, Mohamed Gelati, François Briot. La traduction du poème « Ouznik » de Pushkin est de Michel Sidorov. Musique originale, Sylvain Cassap. Conseillère littéraire, Catel Guillou. Bruitage, Bertrand Amiel, Céline Bernard. Prise de son, montage et mixage, Dalia, Mathieu Leroux, Olivier Dupré, Benjamin Vignal. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Michel Sidorov.
Épisode 4. À quelques jours de l'insurrection, les militants américains John Reed, Louise Bryant, Bill Chatoff et Albert Rees-Williams rencontrent les responsables bolcheviques Lev Kamenev, Alexandra Kollontai et Volodarsky. John Reed récupère ses documents.
Vous avez obtenu gain de cause, monsieur Reed, et vous récupérez vos documents. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais on dirait que notre administration protège les communistes à présent.
Je n'ai rien à répondre à cela, monsieur l'officier de police. Je suis écrivain, je travaille à une histoire des derniers événements en Russie, et j'ai besoin de mes documents. Où se trouve la malle que vous m'avez confisquée à mon arrivée à New York ?
Le juge nous avait demandé de la faire transporter au commissariat central à Manhattan. Pour les inspections.
Et vous ne m'avez pas prévenu ?
Nous ne sommes pas obligés de le faire, monsieur Reed.
Et qu'avez-vous fait du paquet d'affiches collées ensemble ?
Oh, cette chose égoutante. Elle a bien failli partir à la poubelle à cause de l'odeur de colle et de vieux papier. Sergent ?
Oui, chef.
Veuillez apporter à ce monsieur le paquet d'affiches qui est sous l'escalier. Vous ne serez pas venu pour rien, monsieur Reed. Et je ne vois pas un chauffeur de taxi accepter de transporter ce tas de chiffons qui tombe en poussière.
Пожалуйста, товарищ. Я могу?
Да, конечно. Только одна газета для всех.
Спасибо, товарищ.
Спасибо, товарищ.
А, écoutez ça. C'est une lettre aux camarades signée par Lénine. Ou bien nous devons abandonner notre mot d'ordre, tout le pouvoir aux soviets, ou bien nous devons réaliser l'insurrection, il n'y a pas de milieu.
Monsieur Reed, Madame Bryant, content de vous revoir. Je crois que vous passez encore plus de temps que moi à Smolny. Mais c'est une véritable délégation américaine. Bill Chatoff, Albert Rees-Williams.
Bonjour, monsieur Karakhan. Et vous savez que vos explications sur le rôle futur des soviets nous ont été très utiles pour comprendre les buts de la révolution. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec monsieur Kamenev.
Ah! C'est une voix très particulière dans le parti.
Il sera accompagné de la camarade Alexandra Kollontai et du camarade Volodarsky.
Bien, je vois qu'un de nos responsables tient à vous présenter toutes les couleurs de notre arc-en-ciel politique.
Retrouvons-nous au réfectoire pour dîner, voulez-vous ?
Avec plaisir, mais très tôt, car nous avons le meeting du soviet de Petrograd ce soir. Vous n'avez pas oublié ?
Bien sûr que non. À ce soir, dans le doux bruit des cuillères en bois.
Спасибо.
Karakhan est subtil. Il sait très bien pourquoi Kamenev n'a pas pu nous recevoir seul. Il dirige l'aile droite du parti, avec Zinoviev. Ils sont attachés aux soviets, mais croient à une passation du pouvoir pacifique, par la seule force des choses. Kamenev suscite un certain agacement à la direction du parti.
Ouais. Je sais qu'il s'est opposé à Lénine et à Trotsky à plusieurs reprises. Il ne veut pas entendre parler d'insurrection. Les jeunes du parti ne l'aiment pas beaucoup. Ils le trouvent trop tiède, presque même chez lui.
Au moins cela prouve que le parti n'est pas monolithique. Louise Bryant.
Bonjour, John Reed.
Lev Kamenev.
Algarvis Williams.
Lichatov.
Polarski.
Kolontai.
Merci.
Monsieur Kamenev, le soviet de Petrograd a décidé d'appeler pour le 25 octobre au congrès pan-russe des soviets d'ouvriers et de soldats. La direction de l'ancien comité central des soviets a finalement cédé.
Les délais sont courts. Je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait un nombre suffisant de délégués.
Et vous êtes connu pour être attaché à une venue au pouvoir des soviets. N'êtes-vous pas brusquement pessimiste ?
Si le congrès a lieu, il représentera la volonté de la majorité écrasante du peuple. Si, comme je le pense, la majorité est bolchévique, nous demanderons que le pouvoir soit remis aux soviets et le gouvernement provisoire devra se désister.
Vous connaissez les leaders mencheviques comme Lieber, Dan et d'autres opportunistes. Ils sont tous partisans de la guerre. Vous avez entendu parler de la conférence de Stockholm ? Cette sinistre comédie qui a mêlé des dirigeants socialistes avec des représentants impérialistes.
Nos camarades américains en ont sûrement entendu parler, mais est-ce vraiment le sujet ?
Ces traîtres feront tout pour empêcher la tenue du congrès des soviets. Ils sont en train de le saboter. Eh bien, s'ils réussissent à en empêcher la réunion, nous sommes suffisamment réalistes pour que cela ne nous arrête pas.
Que pensez-vous, monsieur Kamenev, des propositions d'insurrection venant de la part de dirigeants de votre parti ?
Le comité central de notre parti en a discuté la nuit du 10 octobre. Tout le monde était présent, les intellectuels, les délégués ouvriers, les délégués de la garnison. Tout le monde était contre, sauf Lénine et Trotsky. Et peut-être toi, Alexandra Mikhailovna.
Effectivement, oui. Mais tu évites de parler de la suite de la réunion, Lev Lvovitch. Il y a eu un vote sur une résolution proposée par Lénine qui a réuni toutes les voix sauf la tienne et celle de Zinoviev et qui disait « Le comité central reconnaît que la situation internationale telle qu'elle affecte la révolution russe, de même que la situation militaire et l'obtention par le parti prolétarien de la majorité au sein des soviets, etc. N'est-ce pas, Lev Lvovitch ?»
Lénine a su être convaincant, comme à chaque fois. Moi-même, qui n'étais pas partisan d'une insurrection à ce moment-là, j'ai tenu compte de son argument selon lequel les bolcheviks étaient beaucoup plus populaires maintenant que pendant les journées du soulèvement avorté, en juillet. Pour lui, et il était difficile de le contrer, la majorité était désormais avec nous, et la situation politique était absolument mûre pour le transfert du pouvoir.
Transfert du pouvoir aux soviets, n'est-ce pas ?
C'est cela même. Pour Lénine, il devenait crucial de discuter des aspects techniques du renversement du gouvernement. Si le gouvernement provisoire n'est pas renversé, comment les soviets prendront le pouvoir ?
Lev Lvovitch Kamenev et Grigori Evseïtch Zinoviev ont défendu des positions, au fond, contradictoires. D'un côté, ils affirmaient qu'une insurrection décidée par les bolcheviks ne serait pas suivie par les paysans, proches des SR, et serait même combattue par la majorité des soldats de la garnison. De l'autre, ils développaient une position défensiste, non violente, permettant de gagner plus encore les masses qui étaient pourtant déjà de notre côté. Ils affirmaient que si le gouvernement provisoire passait à l'attaque contre le congrès des soviets prévu alors le 20 octobre, le soutien très large dans l'armée et dans les masses d'ouvriers et de paysans agirait comme un revolver posé sur la tempe du gouvernement provisoire.
J'avais d'abord développé l'idée que nous devions nous assurer du soutien de la petite bourgeoisie qui est immense aujourd'hui en Russie. Et toute tentative d'insurrection ne ferait que la repousser dans les bras de la réaction.
C'est pourquoi Lénine t'accusa, et nous accusa tous, il faut le dire, de nous comporter comme des mencheviks. Comme ces jusqu'au boutistes de la guerre qui pensait que toute insurrection était un péché. Pour Lénine, il fallait discuter sérieusement de l'heure et du lieu où commencerait l'insurrection. Il pensait au congrès des soviets de la région Nord, qui devait s'ouvrir à Smolny le lendemain matin, et aussi à l'offre des soldats de Minsk de s'emparer du quartier général de la ville. À partir de ce moment-là, on n'a plus discuté sur le fait que oui ou non le pouvoir devait être remis aux soviets grâce à une insurrection. Ce qui domina, et qui domine aujourd'hui, c'est la nécessité impérieuse de donner tout le pouvoir aux soviets, quel qu'en soit le moyen. Car les soviets sont la majorité, et sont partisans d'arrêter la guerre, de remettre la terre aux paysans et d'instaurer le contrôle ouvrier.
Finalement, votre réunion du comité central portait essentiellement sur la méthode et sur le calendrier, c'est cela ?
Oui, hélas, selon moi. Mais la résolution que Lénine proposa après l'avoir griffonnée sur une page de cahier d'écolier ne donnait aucune date.
Certes, mais elle disait bien, et cela était nouveau dans le parti, que pour toutes les raisons que j'ai énumérées, avec aussi le risque de voir le gouvernement provisoire préparer une nouvelle Karnilovchina, l'insurrection armée était à l'ordre du jour. Cela, mon cher Kamenev, tu es tenu de l'appliquer, même si tu ne l'as pas voté, car tu étais minoritaire.
Ma parole, Alexandra, je retrouve bien là ton esprit malicieux, exactement comme lorsque nous avons terminé la réunion cette nuit du 10 octobre. La camarade Flaxerman, chez qui nous étions, a préparé le samovar et a sorti les saucisses, le fromage et le pain noir. Mais ici, nous n'avons rien de tout cela.
Nous avons le réfectoire. Je l'aime beaucoup, pour son ambiance, sa chaleur, même si les rations sont maigres.
Alors descendons vers ce merveilleux réfectoire et ses bruits familiers de cuillères en bois. Nous pourrons parler, mademoiselle Bryant, de l'action chez les ouvrières en Amérique et du féminisme. Brouet de légumes au pain noir. Même menu tous les jours.
Et pourtant, chaque matin, nous craignons qu'il n'y ait même plus cette soupe et ce pain noir. Le soviet de Petrograd a peu de moyens.
Ce presque rien. 7 millions de mutilés de guerre ne l'ont même pas. La ministre de la Santé publique, la comtesse Panine, soutient la guerre et se contente de créer une maison du peuple où l'on fait la lecture aux pauvres quand ils veulent bien s'y rendre.
Une jeune militante menchévique m'a dit d'elle, elle aime beaucoup les pauvres. Elle considère qu'ils sont presque aussi bons que les autres. Ce mot « presque », dit si subtilement, était terrible dans sa bouche.
Vous avez là un exemple de cet humour à la russe. L'air de rien, qu'on trouve aussi chez vos ancêtres anglais. Understatement, ou en Europe centrale. Je vous parlais des mutilés de guerre. Mais il y a aussi les orphelins, les veuves de guerre, tous ces hommes tombés malades au front ou devenus fous sous les bombardements. Cela rend d'autant plus urgente encore la prise du pouvoir par les soviets. L'État pourra enfin payer sa dette envers cette population.
Actuellement, de nombreuses femmes travaillent comme ouvrières dans les usines, c'est-à-dire les usines d'armement. Vous pensez que le contrôle ouvrier, revendiqué par l'ensemble des travailleurs, pourra modifier leurs conditions ?
Dans une Russie enfin libre, c'est-à-dire libérée du poids de l'Église, des lois protégeant la propriété privée des usines et des champs, la femme s'affirmera par son travail, par son esprit. C'est bien joli d'organiser des lectures pour les pauvres, comme le fait la comtesse Panina, mais l'alphabétisation, voilà une priorité. Vous devriez interroger mon camarade Lunacharsky à ce sujet. Il a beaucoup réfléchi aux mesures à prendre pour alphabétiser la Russie. Il vient souvent à Smolny.
Mais Lénine, lui, je ne le vois jamais à Smolny.
Il réside très discrètement dans le quartier ouvrier de Vyborg, de l'autre côté de la Neva. C'est une décision du parti. La police de Kerensky est à ses trousses. Il ne sort de sa cachette que pour les grandes occasions.
Mmh.
Vous évoquez une Russie libre.
Dans le domaine de l'instruction, par exemple, il faudra supprimer les écoles privées et obliger les familles aristocratiques ou grand-bourgeoises à fréquenter les écoles publiques, enfin dotées de vrais moyens et de programmes consistants. La liberté suppose l'égalité. Et chaque institution, sociale, culturelle, d'enseignement, pourra fonctionner à la manière d'une petite république, avec ses délégués, ses choix à définir.
Et aujourd'hui, quel est le choix à faire ?
Dans l'immédiat. Le choix est entre la prise du pouvoir et la disparition dans la répression programmée par Kerensky et les puissances impérialistes. Et pour nous, dans ce réfectoire de Smolny, le choix est entre brouet de légumes au pain noir et brouet de légumes au pain noir.
Pour les pages que j'écris sur Smolny, il y a ma bonne vieille mémoire et le manuscrit de Louise. Nous avons passé tant de bons moments à Smolny, des moments exaltants aussi. Quelle chance de récupérer enfin mes documents. Je vais pouvoir raconter la réunion du Soviet de Petrograd la nuit du 17 octobre. Montrer comment elle a préparé les 24 et 25 octobre, la chute du gouvernement provisoire.
Pardon, monsieur. Quand arrivons-nous à la station Christophe Street?
C'est la prochaine, madame. C'est là que je descends.
Merci beaucoup, monsieur.
La sortie est par là, madame.
Merci, monsieur, j'avais deviné.
Bezgramatnaya, analphabète. Pauvre femme. Ici aussi, il faudrait un programme d'alphabétisation systématique.
Camarades, installez-vous rapidement, s'il vous plaît. La réunion va commencer. Les journalistes étrangers ont une estrade réservée sur ce côté. Camarades, ne fumez pas, s'il vous plaît. Il y va de notre santé à tous.
Je vois, John, que tu vis complètement à l'heure russe. Tu n'as que faire des exhortations à ne pas fumer, toi aussi.
Je dors peu et le café d'ici est moins efficace que celui de New York. Alors je fume pour tenir. La réunion promet d'être houleuse. Tout le monde sait que les troupes contre-révolutionnaires commencent à se concentrer. Mais les Mensheviks et les SR continuent d'accuser les Bolcheviks de vouloir organiser un coup de force contre les Soviets. Soviets qu'eux-mêmes souhaitaient voir disparaître il y a quelques jours. Tiens. Regarde cette proclamation du parti de Kerensky que j'ai décollé hier. De nouveau circulent par la ville des bruits de coups de force. Quelle est la source de ces bruits? Au nom de quelle organisation des agitateurs prêchent-ils l'insurrection? Les bolcheviks interrogés à ce sujet par le TSIK, on y est toute responsabilité.
Le TSIK, un comité central des soviets élu en février, toujours partisan de la guerre, opposé à la redistribution des terres et au contrôle ouvrier sur la production. On comprend pourquoi l'approche du congrès pan-russe des soviets leur fait si peur.
Et pendant ce temps-là, ils masquent les préparatifs. À Moïliev, le grand quartier général, se concentrent les régiments loyalistes de la garde, la division sauvage, les cosaques et les bataillons de la mort. Les Junkers de Pavlovsk, de Tsarskoye Sielo et de Peterov ont reçu de Kerensky l'ordre de se tenir prêt à partir pour Petrograd. Et les Junkers d'Oranienbaum arrivent dans la capitale.
Et en face ?
Une partie de la division des automobiles blindées de la garnison de Petrograd est stationnée au palais d'hiver.
Si proche ?
Sur un ordre de Trotsky. Plusieurs milliers de fusils venant de la manufacture d'armes de Sestroretsk ont été distribués à des délégués ouvriers de Petrograd. Et puis ça aussi, à un meeting de la police municipale, une résolution a été votée réclamant la remise du pouvoir aux soviets.
Le camarade Trotsky a demandé la parole.
Ah.
La presse bourgeoise, relayant les déclarations des dirigeants SR et Menchevik, ne cesse de pousser des cris de frayeur et d'affirmer qu'il existe des projets d'insurrection des soviets. Ces allégations ne sont qu'une tentative réactionnaire en vue de discréditer et de faire échouer le congrès des soviets. Le soviet de Petrograd, et je parle en son nom étant son président, n'a donné aucun ordre d'insurrection. Si cela devient nécessaire, nous donnerons cet ordre et nous aurons l'appui de la garnison de Petrograd. Nous savons que le gouvernement prépare un mouvement contre-révolutionnaire. Nous répondrons par une offensive qui sera décisive et sans merci.
Camarades, j'arrive de Tver. Notre comité agraire a été décrété d'arrestation comme tous les comités d'agraire. Notre crime, nous avons commencé à nous réapproprier les terres que nous avons entretenues et rendues fertiles depuis des générations sous le servage. J'ai réussi à m'échapper. Nous demandons l'aide du soviet de Petrograd. Je vous le dis, camarades, ce Kerensky n'est que le bouclier des gros propriétaires. Eux et Kerensky savent bien qu'à l'Assemblée constituante, nous prendrons tout de même les terres. C'est pourquoi ils veulent l'étouffer dans l'œuf.
Tiens, tiens, les SR n'osent pas l'insulter.
En tant que parti paysan dirigé par ce même Kerensky, ils ne sont pas très à l'aise.
Je suis mécanicien chez Poutilov. Les patrons sabotent l'économie, délibérément, en fermant les usines les unes après les autres, sous le prétexte qu'il n'y a plus de combustible ou de matière première. Or, nous avons découvert d'énormes réserves cachées. C'est une provocation. Ils veulent nous affamer, nous pousser à la violence.
Contre l'ouvrier! Contre l'ouvrier! Contre l'ouvrier! Contre l'ouvrier! Contre l'ouvrier! Contre l'ouvrier!
Camarades! Je vous apporte le salut de ceux qui là-bas creusent leur propre tombe, qu'on appelle tranchée.
C'est Tchoudovski. Il avait été signalé comme tué au combat dans les journées de juillet.
Celui-là, on peut dire qu'il ressuscite d'entre les morts.
La masse des soldats n'a plus confiance dans ses chefs. Les comités de l'armée, qui ont refusé de réunir notre soviet, ont trahi.
Assez de cette guerre.
Les soldats veulent que l'Assemblée constituante se réunisse à la date fixée. Malheur à ceux qui oseraient la différer. Et ceci n'est pas une menace platonique. L'armée a des canons. Dans la 5e armée, les élections pour le soviet sont très violentes. Les officiers, surtout les mencheviks et les SR, travaillent systématiquement à ruiner le parti bolchevique. Ils interdisent la circulation de nos journaux dans les tranchées. On arrête nos orateurs.
Pourquoi ne parlez-vous pas aussi du manque de pain ?
L'homme ne vit pas que de pain. Bien dit.
Bonsoir. Je suis officier et membre du parti menchevique. Peu importe qui est actuellement au pouvoir, ce n'est pas du gouvernement qu'il s'agit, c'est de la guerre. Avant qu'un changement soit possible, il faut d'abord gagner la guerre. Les agitateurs bolcheviques sont des démagogues. Oublions un instant la lutte des classes.
Vous pouvez y compter.
Au premier étage de l'Institut Smolny, dans la grande salle, un millier d'auditeurs se pressaient aux séances tumultueuses du soviet de Petrograd. Ailleurs dans la ville, du crépuscule à l'aube, on jouait fiévreusement dans les clubs. Le champagne coulait à flots. Les enjeux atteignaient 20 000 roubles. Les rues et les cafés du centre regorgeaient de prostituées couvertes de bijoux et de fourrures luxueuses. Complot monarchiste, espion allemand, contrebandier tirant des plans. Par la pluie et le froid, sous le ciel grisâtre, la grande cité toute palpitante accélérait sa course. Vers quoi ?
10 days that shook the world. 10 jours qui ébranlèrent le monde, de John Reed. Adapté par Michel Sidorov. 4e épisode, tout le pouvoir aux soviets. Avec Pierre-Marie Baudouin, John Reed. Flora Brunier, Louise Bryant. Nicolas Struve, Bill Chatoff. Yves Collignon, l'officier de police. Julien Barret, Albert Rhys-Williams. Miglène Mirtchev, Liev Karakan. Sonia Masson, Alexandra Kolontai. Bruno Alain, Liev Kamenev. Thibaut Vincent, Volodarsky. Jérôme Quintard, Léon Trotsky. Arnaud Bédoué, Tchoudovski. Et Olivier Cherki, Nicolas Yaroshenko, Brigitte Bell, Thibaut Monsalier, Laurent Horry, Frédéric Dary, Irina Vavilova, Nicolas Buchou. Musique originale, Sylvain Cassap. Conseillère littéraire, Catel Guillou. Bruitage, Bertrand Amiel, Céline Bernard. Prise de son, montage et mixage, Dalia, Mathieu Leroux, Olivier Dupré, Benjamin Vignal. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Michel Sidorov.
Ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassil, à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.